Mathieu Laurent au micro, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des précisions sur l'intensification de l'offensive turque sur l'enclave kurde d'Afrin dans le nord-ouest de la Syrie. Nous serons dans un instant en direct d'Istanbul. Les questionnements des autorités burkinabées au lendemain des deux attaques lancées au cœur de la capitale, Ouagadougou, correspondance de Fanny Noir. À Bure, dans la Meuse, face à face, forces de l'ordre et opposants au projet d'enfouissement de déchets radioactifs, pas de blessés à l'heure qu'il est. La manifestation était interdite par la préfecture. À la fin de cette édition, les inquiétudes de la sphère culturelle suisse à la veille d'une votation qui pose frontalement la question d'une disparition de la redevance de l'audiovisuel public. L'offensive terrestre promise par le régime syrien dans la route orientale a-t-elle été lancée? Pas encore, selon Damas. Faux, rétorque l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui prétend que deux bases militaires ont été reprises aux combattants de Jaïs al-Islam, majoritairement salafistes, et que les forces loyalistes ont intensifié leurs attaques au sol ces dernières 48 heures. Quoi qu'il en soit, les convois humanitaires n'ont pas eu accès à cette zone pilonnée depuis le 18 février dernier. Sur un autre front, dans le nord-ouest de la Syrie, sur l'enclave kurde d'Afrin, l'armée turque multiplie les bombardements aériens depuis jeudi soir. Bonsoir Anne Lauer.
Bonsoir.
Anne, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avance un bilan de 54 soldats pro-régime tués.
Oui, l'offensive contre Afrin, qui a commencé il y a un mois et demi, est compliquée beaucoup ces derniers jours par le fait que ce ne sont plus seulement les milices kurdes qu'Ankara combat à Afrin, mais aussi ses forces loyales au régime de Bachar el-Assad. Au moins 54 d'entre eux auraient péri depuis jeudi soir dans des frappes de l'aviation turque. L'offensive est aussi compliquée. La Turquie a déjà perdu beaucoup d'hommes alors que les combats se déroulent toujours pour l'instant dans des zones montagneuses et rurales et que la bataille urbaine dans le centre d'Afrin n'a pas encore commencé. La Turquie a perdu 8 soldats dans une seule attaque, ce qui a fait de cette journée l'une des plus meurtrières depuis le début de l'opération. Officiellement, au moins 40 militaires turcs ont été tués et les affrontements sont de plus en plus intenses. Les milices kurdes utilisant des tunnels pour tendre des embuscades aux chars turcs. Alors certes, l'armée turque progresse, mais ses ennemis sur le terrain sont de plus en plus nombreux et la Turquie est de plus en plus isolée diplomatiquement dans cette offensive. Alors ça ne fait pas pour autant reculer le président Recep Tayyip Erdogan qui a juré d'aller jusqu'au bout et assure même que l'offensive va bientôt entrer dans une nouvelle phase, sans doute avec de nouveaux renforts de troupes turques et que celle-là sera plus intense encore et donc potentiellement plus meurtrière.
Merci à vous Anne Andlauer en direct d'Istanbul. Les salaires des fonctionnaires du Kurdistan irakien étaient gelés depuis des mois par Bagdad, ce n'est plus le cas. Les députés irakiens ont voté le budget 2018, séance boycottée par les députés kurdes. La part du budget accordé à Erbil a été sérieusement réduite et est désormais basée sur la population de chaque province. Autre mesure de nature à nourrir un imputrescible contentieux. Obligation est faite au gouvernement autonome du Kurdistan d'exporter 250 000 barils de pétrole par jour, recette contrôlée par Bagdad et reversée au budget fédéral. De nouvelles arrestations à Bahreïn, 116 personnes soupçonnées de lien avec les gardiens de la révolution, unité d'élite du régime iranien. L'agence officielle prétend que des armes et des explosifs ont été saisis par la même Bahreïn, monarchie sunnite qui, depuis le printemps arabe de 2011, s'applique à neutraliser et dissoudre toute opposition. Le Premier ministre burkinabé s'est rendu au siège de l'état-major endeuillé par les deux attaques menées hier à Ouagadougou tout en décrivant, je cite, des scènes apocalyptiques. Paul Kabatieba a demandé au peuple de garder confiance dans les institutions. Cette apparition du numéro 2 de l'État est la seule réponse politique à ces actes qualifiés de terroristes, non sans exclure, et c'est l'approche du ministre burkinabé de la communication, une action de déstabilisation susceptible de bloquer l'avancée démocratique du pays. Comprendre une action menée par des personnes liée au putsch de 2015, putsch manqué à l'encontre des successeurs de Blaise Compaoré. Que s'est-il véritablement passé hier matin à l'état-major, devant l'ambassade de France et l'Institut français? Combien de victimes? Encore bien des incertitudes. Fanny Noir.
Comment une voiture bourrée d'explosifs a-t-elle pu pénétrer dans une enceinte censée être hautement sécurisée? Les premiers éléments montrent que l'entrée n'a pas été forcée, c'est donc qu'on a laissé entrer le véhicule sans le fouiller. Y avait-il des complices? Beaucoup de questions restent en suspens et le gouvernement peine à y répondre, comme si cette énième attaque avait été un coup de massue. Le Premier ministre s'est rendu sur les lieux ce matin, mais toujours pas le chef de l'État, Roquemart Christian Caboret, qui a simplement fait une déclaration à la télévision nationale pour condamner cet acte. C'est peu pour certains Ouagalais rencontrés qui attendent des actions fortes. L'un d'eux confiait « S'ils arrivent à attaquer des bâtiments considérés comme inviolables, c'est qu'ils peuvent attaquer n'importe où ». Pendant longtemps, le Burkina Faso a été épargné du terrorisme. Ce n'est plus le cas. 3 attaques en 2 ans à Ouagadougou, dont 2 à 6 mois d'intervalle à peine. Le gouvernement doit agir et réagir pour rassurer sa population et lui montrer qu'il peut faire face à cette menace terroriste.
L'ONU suspend pour une semaine son aide humanitaire à Ran, localité du nord-est du Nigeria, après la mort jeudi soir de 3 de ses employés. 80 000 personnes dépendent de cette aide dans cette zone où sévissent des recrues du groupe islamiste Boko Haram. À Bure, dans la Meuse, les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires ont manifestement eu affaire à un important dispositif policier. La manifestation avait été interdite par la préfecture et, immanquablement, le face-à-face a eu lieu sans violence lourde à déplorer. Par cette mobilisation, les défenseurs de l'environnement ont l'intention d'afficher leur détermination 9 jours après l'évacuation de campements installés sur le site où les autorités envisagent d'enfouir à 500 mètres sous terre des déchets nucléaires. À Mandrembarois, Claude Kaiser, adjoint au maire de Ménil-la-Horgne, fait montre d'un certain enthousiasme.
Aujourd'hui, l'idée, c'était de partir en cortège, construire une vigie à l'orée du bois, de façon à surveiller ce qui se passait à l'intérieur. Donc les autorités ont manifestement choisi de nous en empêcher, puisqu'il y a je ne sais pas combien d'escadrons de CRS qui sont déployés. Alors les gens essaient de les contourner, les camions de CRS, par les champs, mais ceux-ci se sont immédiatement précipités pour les empêcher d'atteindre l'orée de la forêt. La préfète, la représentante de l'État a choisi d'empêcher même ça. Alors moi je regrette ça, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, pas de dégâts. Si c'est le cas, ça serait quand même de la responsabilité des forces de l'ordre et de l'État en l'occurrence. Moi je fais cette analyse parce que tous ceux qui étaient là depuis le début de cette journée ont pu voir que les gens étaient déterminés à réfléchir, à discuter, à envisager la suite, à construire des comités et à faire cette vigie tout à fait symbolique. Et donc il est dommage que ça se termine comme ça.
Claude Kaiser, adjoint au maire de Ménil-la-Horgne, l'un des élus locaux opposés au projet d'enfouissement nucléaire à Bure, y répondait aux questions de Pauline Penemec. Redevance suisse en sursis, réponse demain à la mi-journée. Une votation baptisée Nobilag, du nom de l'entreprise qui collecte la dite redevance, est organisée demain. La question est frontalement posée, faut-il supprimer tout financement public de l'audiovisuel public dès 2019? En ligne de mire, 60 chaînes de radio et télévision et leurs 13 500 salariés. Et combien d'emplois indirects dans la culture? Notre envoyée spéciale en Suisse, Cécile de Kervès-Doué, s'est intéressée au milieu de la musique et plus particulièrement du jazz à Lausanne.
Ce concert, comme l'intégralité du festival, la radio publique suisse l'enregistre pour le diffuser. C'est l'occasion pour les artistes de toucher des droits d'auteur et c'est aussi l'occasion de faire entendre à tous les citoyens des stars internationales mais aussi des talents émergents et locaux de la scène suisse. Et c'est ce service public-là que le Nobilag veut supprimer, s'énerve le producteur Yvan Hichère dans son camion d'enregistrement.
Je crois qu'il y a énormément de choses dont les gens ne se rendent pas compte. On leur sert et on leur offre une musique avec des preneurs de son formidables, un matériel formidable et une qualité de restitution qu'on ne peut pas faire autrement. Et surtout, c'est un savoir-faire maintenant qu'il y a des décennies. Et ce qu'on offre aux gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Mais surtout, ils croient que c'est gratuit, parce qu'ils allument la radio et c'est là.
Trop gâtés les auditeurs suisses? Non, répond l'un des musiciens locaux avant d'entrer sur scène. Le problème, c'est que le milieu des médias comme celui des artistes est beaucoup trop replié sur lui-même et ne prend pas la peine d'expliquer ni de justifier son travail, qui est pourtant financé par le contribuable. C'est ça qu'il faut changer, explique le contrebassiste Nine Langel.
Moi, je donnerais la moitié des budgets qu'on a pour organiser des concerts, pour augmenter le nombre d'enfants qui ont vraiment une éducation aux arts, à la culture, à la musique, à tout ça. Parce qu'en fait, je suis persuadé que 15 ans derrière, on aurait en fait du public pour les concerts et un public qui saurait le travail que ça représente de faire ça, qui du coup, à mon avis, serait d'accord d'en assumer les coûts.
Reste à espérer, ajoute-t-il, que le service public scolaire ne soit pas lui-même attaqué comme l'est aujourd'hui le service public de l'audiovisuel.
Cécile de Kervasdoué en Suisse, les grandes lignes météo de demain dimanche. Nouvelle perturbation sur une grande partie du pays d'ouest en est. Pluie le matin de la Normandie et d'Île-de-France. Au centre et à la Nouvelle-Aquitaine, sur le Languedoc et la Provence. Température maximale comprise dans l'après-midi entre 8 et 15 degrés. Cette édition a été préparée avec Mathilde Julien, la technique Pierrick Monsigny.